Chapitre 20. La mer est grosse en 5 rèmes, Tom. On devrait penser à retourner à Lens. Freddy commençait à craindre que leur décision de rester plus longtemps en mer ne les mène à une situation désastreuse. Au large, la houle était à présent bien visible et les vagues claquaient sèchement sur la coque de la barge à intervalles de plus en plus rapprochés. Tom jeta sa cigarette dans l'eau et mit sa main en visière au-dessus de ses yeux pour regarder au loin. Les deux pieds bien écartés dans le fond du bateau et le corps appuyé sur la coque orange, il hurla de toutes ses forces. « Tibouk! Tibouk! » Freddy grimaça et se retint de lui dire qu'il s'entêtait pour rien. La brume était tellement épaisse que les hommes l'inhalaient à chaque inspiration. Ils avaient l'impression d'étouffer par moments. En plus, un vent glacial s'était levé et soufflait dans leur direction. Impossible pour les autres pêcheurs d'entendre quoi que ce soit avec les vagues et les rafales qui augmentaient. Comprenant l'urgence de la situation, les deux hommes échangèrent un regard inquiet. Ils étaient transis et sentaient à peine leurs doigts gourds. « On devrait lever l'ancre !» beugla Freddy en faisant des signes de la main gauche. Le bateau ballottait de plus en plus violemment. Aussi d'un geste de la tête, Tom fit comprendre à l'autre qu'il était d'accord. Il se pencha pour tirer la corde au bout de laquelle se trouvait leur grappin. Freddy se déplaça lentement vers l'étambeau, et alors qu'il s'approchait de Tom, une vague plus puissante frappa la barge, et ce dernier bascula dans la mer sombre. « Tom !» rugit son beau-frère en se précipitant à l'endroit de la chute, la gorge nouée par la panique. Il se pencha par-dessus bord en criant sans cesse le nom du pêcheur en détresse. Les gouttes de pluie, d'abord éparses, tombaient à présent de façon soutenue. Le mouvement des vagues fit dangereusement tanguer l'embarcation orange. Freddy ne voyait plus son beau-frère, et à la pensée de devoir annoncer à Simone que son époux s'était noyé, il s'époumona de toutes ses forces. « Tom, tiens bon, j'arrive! C'est pas vrai que tu vas me faire ça, Tom! » Désespéré, Freddy leva les bras bien haut, en espérant que les autres pêcheurs viennent à leur rescousse. Dans la mer, il distinguait la tête blonde à quelques pieds du bateau. Constatant que la barge de Bourbeau semblait tout autant en difficulté que la leur, l'homme prit une décision rapide. Il sortit la bouée de sous le banc de bois et la lança à Tom sans cesser de hurler des encouragements. « Lâche pas! Attrape la bouée, Tom! Je suis là! » Une secousse plus violente que les autres fit disparaître la casquette de Freddy, qui ne s'en aperçut même pas. Penché au-dessus de la mer, il sentit la panique l'envahir lorsqu'il comprit qu'un squale s'abattait sur eux. « On va couler !» pensa Freddy avec effroi. Émile regardait les barges arriver les unes après les autres au quai. Il attendait celle de Tom et Freddy avec impatience. La pluie, qui venait de commencer à tomber, rendait le travail autour des vigneaux plus compliqué. Comme les autres terriens, il utilisa les prélards pour protéger les pilots, qui restaient sur la grave en ce début d'automne. Tous s'empressèrent de protéger les morues de la pluie. Le jeune homme comprit que Madeleine ne viendrait pas les rejoindre. Depuis la naissance d'Arthur, la femme ne pouvait guère demeurer dehors avec le bébé lorsque la météo était si peu clémente. N'en faisant pas de cas, Émile jeta un coup d'œil vers Horace, à l'autre bout de la plage. Empêtré dans une toile, l'homme semblait pesté, et comme les autres villageois se dirigeaient vers le quai pour accueillir les premiers pêcheurs, afin de les aider à sortir leur caisse de morue, le jeune homme décida d'aller lui donner un coup de main. « Attendez !» cria-t-il à Horace en s'approchant à la course sous la pluie. Le chapeau dégouttant sur son visage rond, le sexagénaire le remercia, et en moins de quelques minutes, ils installèrent la toile bien comme il faut sur les pilots de la famille Laviolette. Horace en profita pour faire part de son inquiétude au jeune pelletier. « J'espère que nos gars vont arriver bientôt parce que la tempête sera pas belle. » J'ai pourtant dit à Tom que l'air sentait l'orage quand il est parti cette nuit. Je comprends pas pourquoi ils sont pas encore ici. Il manque juste leur barge et celle de Tibouk Marsolet. C'est ce que je me dis aussi, mais il devrait pas tarder. Craignez pas, Monsieur Laviolette, votre fils connaît son affaire. » Les deux hommes criaient pour se faire entendre, et en vitesse, ils rejoignirent les autres gens sur le quai. Dans une telle situation, les indépendants, les employés de la Robin et même les quelques pêcheurs à la draft, qui n'avaient pas encore cessé leurs activités, venaient prêter main-forte. L'entraide dominait dans le village, et on s'empressait de transporter les poissons aux vigneaux appropriés, en plus d'assister les hommes pour amarrer solidement les barges. Simone venait d'arriver sur la plage pour accueillir son mari lorsqu'elle comprit, en voyant les embarcations déjà accostées, que la sienne n'y était pas. Fronçant les sourcils, elle demanda à Ludivine de surveiller Béatrice quelques instants et s'engagea sur le quai, tête baissée, pour éviter les giclées d'eau glacée. « Horace, ils sont pas encore arrivés? » L'homme secoua la tête et marmonna quelque chose que la femme ne comprit pas. Elle s'approcha de son beau-père et plongea son regard inquiet dans le sien. Depuis son malaise, Horace avait vieilli, et son fils l'implorait de prendre soin de lui. Mais entêté, l'ancien pêcheur avait laissé savoir qu'il n'allait pas commencer à se bercer à longueur de journée. « La grave, c'est ma vie », avait-il précisé d'un ton ferme. Simone s'avança sur la plateforme de bois en longeant prudemment le mur. Arrivée au bout, la femme mit ses deux mains au-dessus de ses yeux pour se protéger de la pluie. « Maudit homme, m'arrive !» hurla-t-elle tout à coup, le cœur battant la chamade. Parmi les barges qui approchaient à toute vitesse, poussées par les bourrasques de vent, aucun signe du bateau orange. Lucienne arriva près de Simone, le visage ravagé par l'appréhension. « Mon Thibault non plus est pas là. Et Seigneur, que j'haïs ça! Je suis trop vieille pour endurer ça, je te le jure, quand il va rentrer à Lens, je vais lui faire promettre de vendre sa barge. Il cultivera des patates dans notre champ, on se contentera de ça. » La femme rousse portait un immense imperméable qui appartenait à son mari. Son menton tremblait, et malgré les années, malgré une vie à attendre son Thibault, Simone comprit en la voyant tressaillir ainsi qu'on ne s'y faisait jamais. Taisant son inquiétude, la jeune fit de son mieux pour rassurer Lucienne. « Ils sont toujours prudents, nos hommes. On va les voir revenir bientôt, j'en suis sûre. » Mais lorsque 4 heures de l'après-midi sonnèrent, toutes les barges étaient de retour au quai, sauf celle de Tom et de Bourbeau. Les villageois se relayaient sur la plage de Galais pour tenir compagnie aux femmes des 3 pêcheurs manquant à l'appel. Le second sur le bateau de Thibault était un homme célibataire, dont la famille vivait près de Percé. Émile avait dû se résigner à aller avertir Madeleine de la situation et, devant la pâleur qui avait envahi ses traits, l'homme avait tenté d'amoindrir le choc afin de protéger la femme enceinte. « Je suis certain qu'au moment où tu vas arriver à la grave, ils vont être revenus », avait-il précisé. Palmyre avait joint ses mains sur son cœur pour prier. Puis elle avait levé sa canne vers sa petite fille. « Laisse-moi le bébé, et va voir ton mari, Maddy. » Sans même songer à une autre option, Madeleine avait serré sa grand-mère contre son corps arrondi et avait suivi Émile en suppliant le ciel de ne pas sévir de nouveau contre leur famille. Dans la barge au milieu de l'océan, Freddy avait l'impression d'être hypnotisé par la hauteur des vagues qui les entouraient. Depuis longtemps, il ne voyait plus le bateau de Bourbeau. Il pleurait et les larmes qui coulaient sur ses joues se mêlaient aux gouttes de pluie glacée qui tombaient de la voûte sombre au-dessus de sa tête. Il s'acharnait à lancer la bouée dans la direction où il avait aperçu Tom la dernière fois, même s'il ne le voyait plus. « Tom! Tom! » criait toujours le jeune pêcheur en s'agrippant solidement à la coque. « Fais-moi pas ça, calvaire de Christ! » Il ne savait plus quel geste poser lorsque la corde de la bouée se tendit dans sa main. Freddy releva aussitôt son corps effondré. Son beau-frère venait d'attraper le flotteur et, submergé par le soulagement, l'autre pêcheur sauta sur ses pieds et se mit à tirer de toutes ses forces. « tiens bon, je te ramène, Tom! » Au prix d'un effort incommensurable, Freddy réussit à rapprocher son beau-frère du bord de la coque. Il se pencha et le prit sous les aisselles pour le sortir de l'eau. Le jeune ne sut jamais d'où lui vint cette force, mais en hurlant de rage, Freddy souleva le pêcheur affaibli et le sortit de la mer. Le bateau tanguait fougueusement et l'eau s'accumulait dans le fond. Les 2 hommes tombèrent à la renverse et, serrant le grand maigre contre lui, Freddy pleura en criant « Je t'ai, Tom! Je te tiens! Je te longe plus! » Mais le pire était peut-être à venir, réalisa bientôt Freddy, en devinant les lèvres bleutées de Tom et en sentant les tremblements qui affligeaient son corps inerte. « Froid !» réussit à marmonner le pêcheur qui claquait des dents violemment. Malgré l'imperméable qui couvrait son corps, Freddy était gelé lui aussi. Il se pencha sous le banc pour sortir leurs trousses de survie. La mer se déchaînait contre l'embarcation et crachait sa colère sans répit. Freddy enleva ses gants et souffla sur ses doigts transis pour réussir à soulever le couvercle de bois. Rapidement, il sortit une épaisse couverte de laine et un prélard en remerciant Émile, qui l'avait placé là en disant que c'était plus prudent pour se protéger en cas d'averse. L'eau commençait à couvrir le fond de la barge et Freddy comprit que la situation risquait de s'avérer fatale. « Tiens, Tom, » fit-il en couvrant son beau-frère qui avait toutefois sombré dans l'inconscience. Affalé sur ses fesses, Freddy eut envie de fermer les yeux pour prier. Il n'avait jamais affronté une telle tempête et se demandait comment il ferait seul pour ramener leur barge à bon port. Du regard, il chercha un seau pour écoper le fond. Dans sa tête, des dizaines de pensées se mélangeaient. Il cria à son beau-frère sans savoir s'il l'entendait. « Si on coule, on s'accroche au bois, Tom, t'as compris? C'est pas vrai qu'on va mourir ici, nous autres! » Puis Freddy se releva péniblement pour affronter la mer en furie. Il réalisa qu'il ne verrait peut-être jamais son autre enfant. Il songea à sa famille, en regrettant de ne pas avoir serré son fils dans ses bras avant de partir. Il n'avait pas voulu le réveiller. Avoir su. Quand Madeleine arriva sur le quai, Simone devina sa présence avant même qu'elle ne s'installe à ses côtés. Elle mordait ses lèvres pour éviter de perdre le contrôle de ses émotions, mais la présence de sa jumelle fit céder la digue. « Oh, Maddie !» murmura-t-elle en plongeant son visage dans ses mains. Madeleine éclata aussi en sanglots lorsque sa sœur ouvrit les bras pour l'accueillir contre elle. Pour la première fois depuis la mort d'Éloi, les jumelles Gérard s'enlacèrent sans rage ni rancune. Seule l'angoisse et l'inquiétude envahissaient leur être. Elles s'appuieraient l'une contre l'autre et plus tard, Simone comprendrait que sa colère avait cédé la place à l'amour que lui inspirait depuis toujours sa sœur Madeleine. Autour des villageois éprouvés, les hommes organisaient les recherches. Il fallait faire vite car bientôt la nuit serait tombée. « On va aller les chercher !» cria Émile en arrivant derrière les sœurs et Lucienne, qui s'étaient assises sur un banc pour prier. Il s'approcha à quelques pouces de Madeleine, qui leva ses yeux noisettes brillants de larmes sur son visage. Le cœur serré devant cette détresse si visible, Émile clama « Je te promets de tout faire pour le ramener, Maddie !» Cette dernière hocha la tête sans répondre en serrant la main de Simone contre sa poitrine. Elle n'avait plus l'intention de la laisser aller. Au milieu de cet orage d'automne que personne n'avait prévu, peu de gens constatèrent que les jumelles s'étaient réconciliées. Et ceux qu'ils firent haussèrent les épaules avec sagesse. Quand la mer devenait cruelle, les humains avaient intérêt à faire bloc devant elle. Cette évidence faisait partie de leur réalité depuis toujours. Il était près de 10 heures le soir du 18 octobre, lorsque le bateau prêté par la Robin après une courte négociation revint au quai en tirant une barge. Les villageois, épuisés par l'attente, avaient cherché refuge dans les chafauds et les cabanes à trancher. La plupart des femmes, sauf celles concernées par le drame, étaient retournées prendre soin des enfants revenus de l'école. La pluie avait cessé vers 6 heures, mais les vents avaient continué de souffler. C'est Philomène qui s'occupait de Béatrice. Son grand-père Horace l'avait avisé d'une situation demandant sa présence et celle de sa mère à la grave, sans préciser que la barge de Tom et Freddy était manquante. Gustave avait alors décidé qu'il serait l'homme responsable pendant l'absence des adultes la Violette. « Inquiétez-vous pas, monsieur Horace, je vais m'occuper du feu et des filles. » Si la situation ne l'avait pas autant alarmé, nul doute que le sexagénaire aurait rigolé devant le visage sérieux du petit Gustave. À 9 ans, le garçonnet avait l'habitude de prendre soin de lui sans aide, et il passait tellement de temps dans la Maison Blanche qu'il était presque devenu un membre de la famille. Horace avait frotté sa chevelure drue et s'étaient empressés de retourner à la plage de Lens. Lucienne, Madeleine et Simone essayaient de distinguer le bateau rescapé en tenant des lampes au bout de leurs bras. Les trois femmes se collaient l'une contre l'autre et priaient depuis des heures. Jacqueline, mis au courant de la situation par son bedeau en panique, avait rejoint les villageois vers la fin de l'après-midi, après des heures à jongler avec la question. « Si Rosalie s'y trouve, je vais lui parler ou je l'ignore ?» se questionnait-il. « Oh Seigneur, guide-moi, je t'en supplie. Mes sœurs ont besoin de ma présence, je crains toutefois sa présence à elles. » Mais conscient qu'il ne pouvait éviter de se rendre au quai, il avait enfilé un long manteau noir et ouvert un parapluie au-dessus de sa tête. D'un pas vif, Jacqueline était descendue au village en saluant d'un signe de la main les villageois qu'il croisait. « Oh, monsieur le curé, c'est bien terrible !» s'exclamaient les uns. « Priez pour votre famille !» s'écriaient les autres en s'empressant d'aller retrouver un peu de chaleur au sein de leur demeure. Certains avaient passé la soirée dans le magasin général, où un va-et-vient constant avait empêché Rosalie de réfléchir à sa situation. Dans un geste de bonté habituel dans de tels moments, Gaston avait demandé à sa femme de faire chauffer de l'eau pour les clients, et chacun avait droit à une tasse de thé bien bouillant lorsqu'il pénétrait dans le commerce. Jean-Julien, consterné par l'épreuve qui affligeait de nouveau les jumelles, se tenait près d'elle. Il n'avait pas quitté les deux femmes, et lorsqu'un bruit résonna dans la nuit, il enlaça ses nièces, tout en priant en silence pour que les nouvelles soient bonnes. La Robin possédait la seule embarcation équipée d'un moteur à essence de Lens-à-la-Joie, et les villageois reconnurent immédiatement son bruit caractéristique. « Ils arrivent !» cria un homme en courant dans la cour de Gaspé. Quand la rumeur se répandit que le bateau de la Robin ramenait une barge, le magasin se vida. Jacqueline se tenait près des vignaux de Freddy en compagnie de Fidèle au visage rougi par la froideur de la nuit et l'énervement causé par la situation. D'un œil aguerri, le curé suivait la lueur des lampes pour tenter de distinguer le corps de la jeune femme qui le faisait frémir. À présent qu'il avait embrassé et touché Rosalie Taillefer, elle était devenue une obsession. Quand il la vit arriver en courant aux côtés de ses frères, Jacqueline ressentit un désir tel qu'il crut ne pouvoir y résister. Sa main gantée serra convulsivement la poignée de son parapluie inutile. Il émit un son guttural et Joseph Tremblay, le charpentier du village, s'informa d'un ton alarmé. « Vous êtes correct, monsieur le curé ?»« Oui, oui, juste. Inquiet. » réussit à balbutier Jacqueline en remerciant le ciel que la nuit soit bien noire. Il ferma son parapluie d'une main tremblante et recula un peu, afin d'éviter de se trouver dans la trajectoire visuelle de la belle Rosalie. Sur la plage, un cortège de femmes, d'hommes et d'enfants attendait nerveusement les secouristes. La frénésie était palpable, et tous espéraient que les quatre pêcheurs aient été secourus. C'est Émile qui monta le premier à bord d'une chaloupe. « Alors ?» cria un premier villageois. Aussitôt, une clameur monta de la plage quand la barge orange apparut derrière la grosse goélette. « Tom et Freddy ! Ils ont trouvé Tom et Freddy !»